Ouais, les professions de vigne dans les deux textes, la première lecture d'Isaïe 5 et l'évangile qui nous est donné à méditer en Saint-Matthieu. Alors, je ne sais pas si on avait de la vigne ici à Reims, un peu partout, je pense, sur des lieux qui s'appellent la vigne. On m'a dit que les vignes avaient été interdites de production en Bretagne au 19e siècle. Je ne sais pas si c'est vrai. On a le droit d'en replanter aujourd'hui. On a vu le réchauffement climatique. On pourra bientôt vendanger du vin bio de Reims. La vigne, alors c'est Isaïe, hein, bien sûr, un vieux prophète de l'Ancien Testament, c'est une image d'Israël. C'est une image encore que Dieu prend pour nous faire comprendre quelque chose de très profond sur notre vie. La vigne, c'est la terre d'Israël. Les vignerons, ce sont les anges. Le maître de la vigne, c'est Dieu. Et les fruits que demande Dieu, bien sûr, la terre, les vignerons, ce sont les intendants, ce sont les prêtres. On peut supposer que les gens, c'est la terre d'Israël qui sont là. Et Dieu demande que cette terre d'Israël produise du fruit. Et Dieu est un peu furieux parce que s'aperçoit que les gens, en fait, ne travaillent qu'à la terre ou bien ils occupent la terre et tuent, et pillent. Et c'est pas des bons fruits que Dieu attendait, ça va être des mauvais fruits. Et ça met, on a l'impression, Dieu dans une colère incroyable. Et il va enlever aux vignerons cette terre. Parce que les bons fruits de paix et de justice n'ont pas été produits. Les gens sont toujours dans la rapine, toujours dans la colère, dans la guerre et dans la haine. Et Dieu ne veut pas de ça. Un Dieu de l'Ancien Testament est le même que le Dieu Jésus-Christ, un Dieu qui est bon. Il veut que nous produisions des bons raisins. D'accord ? Pour produire du bon vin, du vin de la vie, du vin de la joie. Et Jésus reprend cette parabole aujourd'hui dans Saint Matthieu. Saint Matthieu qui est l'évangéliste, on pourrait dire, le plus sémite, le plus juif. Et Matthieu, évidemment, dans la bouche de Jésus, il va reprendre ce texte de la première lecture d'Isaïe 5. Et donc le propriétaire encore, c'est bien Dieu, et qui a remis sa terre à des intendants. Et les intendants, pareil, une histoire, ne font pas leur travail. Donc dans Saint Matthieu, Dieu envoie une première fois des serviteurs, ils sont tués. Il envoie encore des serviteurs plus nombreux, ils sont tués. Et là, il envoie son fils, ils prendront soin de mon fils, mais il est tué. Et nous, on y voit bien sûr cette image que Dieu qui cesse de venir vers son peuple et qu'en dernier recours, le Père envoie son fils, au moins ils le respecteront. Et le fils, pour nous, bien sûr, en relisant l'histoire, c'est Jésus-Christ. D'accord ? Et Dieu enlève la terre aux intendants. Et une lecture qui ne serait pas très juste, une lecture qui ne serait pas très juste, et qui a nourri, on pourrait dire, une forme d'antisémitisme, vous voyez bien, le peuple hébreu, le peuple juif, n'a pas su prendre soin de la vigne, et donc Dieu va enlever de la terre d'Israël la promesse, et va la remettre à l'Église, en particulier catholique. Et ça nourrit chez nous un antisémitisme un peu virulent. Vous avez trahi Dieu, vous l'avez tué, et donc Dieu va remettre la promesse, non pas au peuple hébreu, vous êtes damné, va la remettre à l'Église catholique. Alors cette lecture, il a fallu qu'elle soit travaillée depuis le XXe siècle, et en particulier au Concile, pour dire, attention, c'est une lecture qui est fausse. Saint Paul dira que Dieu n'enlève pas la promesse au peuple hébreu, au peuple juif, ce sont nos frères aînés dans la foi. Dit déjà Saint Paul dans l'Écriture. Elle n'a pas enlevé la promesse, mais ce sont les chefs religieux qui ont trahi le Christ. Mais ce n'est pas tous les juifs. Si un évêque catholique ou un prêtre catholique fait ce qui est mal, ça ne veut pas dire que tous les catholiques font ce qui est mal. On se comprend quand je dis ça. Hein, d'accord ? Pour que ce soit très clair dans votre esprit que l'on vient. Le peuple hébreu n'est pas damné. Il reste peuple élu. Nous sommes greffés. On dira même greffés dans la Bible. Le serment, c'est que le peuple hébreu, Jésus lui-même était juif. Et Jésus est juif par sa mère. On est sûr. Le Père, il faut se poser des questions. J'école. Mais la mère, non. D'accord. Et Marie est juive. Et je crois que c'est Claudette qui dira que Jésus a reçu l'antisémitisme très durement, il a reçu une gifle sur les propres joues de sa mère. Oui. Marie était juive. Et toute l'éducation de Jésus est juive. Tous les apôtres sont juifs. Et après, l'Église va s'ouvrir. Ce que le peuple hébreu n'a pas voulu forcément entendre pour l'instant, c'est la grâce de Dieu toujours là. On continue maintenant de prier Vendredi Saint pour nos frères aînés dans la foi. Auparavant, on priait avant le concile pour les pères fils juifs. C'est donc quelque chose hein, qui avait trahi la foi, qui sont restés fidèles à la foi de leur père. Mais, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ou bien soit bien clair dans les questions. Je me rappelle un diacre qui avait prêché en disant que ce que je vous dis tout à l'heure, le contraire, en disant qu'en fait le peuple hébreu avait trahi, ils avaient fait la promesse, maintenant c'était les catholiques. Il s'est fait reprendre la tête à la sortie de la messe par une femme dont le mari était juif. Et il s'en est souvenu. Heureusement que l'évêque était pas là, il était furieux. Voilà, donc la vigne, comme par hasard, Jésus, il prend le fruit de la vigne. Donc il prend notre prière, le fruit du travail des hommes, je dirais tout à l'heure. Le pain et le vin, et la vigne, c'est ça. Et je n'en boirai plus avant mon retour sur terre. La vie éternelle est conçue comme un festin de noces. On boira du vin, on mangera ensemble. On n'aura pas de masque, on est obligé d'avoir le masque pour manger ensemble. Donc, ça veut dire que la relation sera parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est compliqué quand même. Si vous souriez ou pas, je vois les yeux qui se pissent des fois. Mais si vous pleurez, c'est la même chose, c'est pas simple. Mais dans le repas des noces éternelles, il n'y aura pas de barrière sanitaire. Donc on se retrouvera à boire le vin de la vigne qui aura été purifié, lavé par notre travail finalement chaque jour. On aura émondé le serment. La vigne demande beaucoup de travail, qui est long, qui est professionnel. Je ne sais pas s'ils ont commencé là-bas, dans le Bourgogne, dans le Bordelais, je sais, ils ont commencé la récolte, je ne pense pas, pas encore.
Si, si, si. Si.
Mais ils sont trop bons. Et puis Saint Paul, je vous parle comme ça, parce que je n'ai pas tellement bossé mon homélie, là. J'improvise un peu. À l'église salière, en fait. Et puis je sais tout à l'heure Saint Paul, c'est une belle lecture. Il dit, dans notre temps où on a tous un peu peur, il n'y a pas un article, un journal ne sort pas des choses sur le Covid, etc. Et Saint Paul dit, ne soyez inquiets de rien. Si vous retenez que cette phrase aujourd'hui, ne soyez inquiets de rien, dit Saint Paul. Et qui parle d'un contexte compliqué où l'Empire romain est là, il y a des persécutions, le multiculturalisme existait déjà à l'époque de Saint Paul. Mmh. Hein? Il existait de culture grecque dans une langue, un envahisseur qui était le Romain. On a des voix romaines ici tout près, on a été aussi marqués nous aussi par l'Empire romain qui a été tellement fort d'ailleurs de son temps qu'ils ont enlevé la langue gauloise. Mais, vous voyez, c'est des problèmes de culture, différentes religions, la religion juive, la religion païenne, on pourrait dire de l'Empire romain, il y a aussi des religions asiatiques qui étaient très fortes à l'époque, des religions mystères, et tout ça c'est un bouillonnement culturel. Et l'Évangile va tracer sa route à travers tout cela, des guerres, des invasions. Ne soyez inquiets de rien, dit Saint Paul. Mais en toutes circonstances, dit-il, priez et suppliez. Et quand vous êtes venus ce matin, vous venez pour prier. Pourquoi? Pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et un chrétien demande plein de choses à Dieu. Et à une époque, j'ai connu ça chez les chrétiens. C'était pas juste, je trouvais. Ils disaient, moi, je ne demande jamais rien à Dieu. Je trouve ça un peu suffisant. Moi, je passe mon temps à lui demander des choses. Et des fois, ça me fait de la colère. Comme vous, j'espère. Face au scandale de ce monde. Comme mon petit frère a fait la décès. Mais c'était pas le moment. Il a un ou deux enfants handicapés. Qui a dit, attention, hein. Tu franchis la ligne rouge, tu te débrouilles. On a droit d'être en colère. Le pire dans la vie, avec Dieu, c'est l'indifférence. Maintenant, les gens, ils sont pas contre Dieu, mais ça sert à rien. Et toi, comme chrétien, ne sois pas indifférent. Demande-lui des choses pour ta santé. Demande pour ton voisin qui va à l'hôpital, ou tel autre qui est au chômage, ou tel gamin qui a été agressé. Vous voyez? Vous demandez des vocations, etc. Que votre prière soit fervente. Demandez à supplier Dieu. Et s'il est sourd, débouchez-lui les oreilles. Ou jetez-lui un audio machin chose. Je sais pas si ça fonctionne beaucoup des fois, mais. Hein? Dieu n'est pas sourd. Et encore faut-il qu'il entende nos prières. Qu'on le prenne par les oreilles. Et des livres. D'accord? Allez, je vous laisse parler. Mettez-le en pratique.